Pauline Pucciano, Titania 4.0. Chapitre 8. Préparatifs. Un grand vent s'est levé dans ton âme inquiète, balaie les souvenirs, agite tes pensées, trouble le pur silence des choses muettes, d'un mouvement désordonné. Plus je te vois, reine de guerre et de vertige, nager dans le courant des révolutions, tourner dans le manège où tes idées voltigent, plus me torturent mes questions. Où finit-il, ce grand rapide qui t'emporte? Vers quelle chute majestueuse et fatale? Te verrai-je apaisée avant que d'être morte? Reine exaltée, malgré l'amour que je te porte, il me vient le désir d'une île, d'une escale, et le regret poignant de nos amours banals. En écrivant le dernier mot, Jean hésita. Ses amours avec Titania n'avaient jamais été banales. Mais il y avait eu leurs 2 mois dans la maison de l'île de Lormet, comme une sorte d'acte fondateur d'une autre vie possible. Certes, il était tombé amoureux d'elle à Paris. Il se souvenait avec intensité de ses premiers jours incandescents. Ils avaient été brefs, comme le passage d'un météore, et avaient bouleversé définitivement sa vie. Marqué par sa mort prochaine, Titania avait alors un calme souverain, une propension à la contemplation. Elle se taisait souvent, écoutait religieusement de la musique, disait des mots surprenants et profonds. Dans la maison sur l'île, il s'était découvert dans la lenteur et l'immobilité, dans cet espace circulaire et resserré comme un cocon. Leur amour n'avait pas éclos là, mais il y avait grandi, dans une gestation lente et sublime. Leur retour à Paris avait été nécessaire, sans doute, et tout ce qu'ils faisaient depuis avait du sens. Jean croyait au collectif debout dans le temps. Il espérait que leurs actions ouvriraient des yeux, libéreraient des pensées. Mais il était avant tout amoureux, et cette vie les consumait. Il ne rêvait que d'emmener Titania ailleurs, de retrouver la lenteur et l'immobilité. Titania semblait s'être adonnée, à nouveau, à ses démons. Elle n'avait plus les moyens de s'offrir les modifications corporelles, mais elle s'étourdissait au carnaval permanent de ses déguisements et de ses rôles. Bien sûr, elle avait pour cela une merveilleuse justification. Il fallait agir pour le collectif, publier des vidéos, et Jean reconnaissait qu'elle avait un génie pour la métamorphose. Il était surprenant de la voir sans cesse disparaître et renaître, dans l'alternance magique de ses perruques et de ses accessoires. Mais cela l'emplissait d'un frisson malade, provoquait une excitation permanente de ses nerfs. Elle préparait ses performances avec une application maniaque et se regardait après coup d'innombrables fois. Les déménagements incessants, encore plus fréquents depuis qu'ils avaient eu l'impression d'être suivis, la réjouissaient plutôt. Même l'idée qu'ils puissent être suivis l'amusait. Elle jouait dans chaque nouveau lieu à la dinette, mais lorsque par hasard ils restaient plusieurs jours au même endroit, ou lorsqu'elle n'avait pas de rôle à préparer, elle devenait taciturne et s'ennuyait. Mito la suivait, comme une ombre, dans tous ses excès. Il était capable de regarder les vidéos de Titania 100 fois, de l'aider à ajouter un détail infime à son déguisement. Il était volubile comme elle, sautillant et toujours sur le départ, épousant les dents de scie de ses humeurs capricieuses. Cela faisait déjà plusieurs semaines que Jean avait pris conscience des sentiments qu'il lui portait. Cela l'avait irrité au départ et puis il avait réfléchi. Il était bien placé pour savoir combien il était facile de tomber amoureux de Titania. En fait, le contraire l'eût plutôt étonné. Elle était si belle et si captivante. Comment un homme, exposé à cette radiation de manière quotidienne, pouvait-il ne pas succomber? Jean n'en voulait pas à Mito. Il observait sa lutte intérieure, surprenait ses regards vite détournés, ses soupirs à peine audibles. Il voyait que Mito se retirait souvent pour lui laisser la place. Jean n'était pas du genre à rivaliser. Il croyait au grand amour de Titania, et s'il se trompait, alors plus rien ne valait la peine. Il se formulait cependant de plus en plus nettement que cette situation ne pouvait pas durer. Titania devenait de plus en plus instable, Mito se consumait de cet amour interdit, et lui, Jean, conscient de tout, mais ne pouvant parler de rien, ne pouvant agir sur rien, se sentait captif d'un destin qu'il n'était pas sûr de comprendre. Debout dans le temps, leur offrait beaucoup de choses, des moyens de subsistance, un sens à leur existence. Le collectif leur permettait à tous les trois de prendre leur revanche sur ce monde corrompu qui leur avait ôté ce qu'ils avaient de plus précieux. Les institutions qu'ils combattaient avaient tué la mère de Jean, contraint Mito à une vie de prostitution puis de mendicité, menait Titania jusqu'à une table d'opération où une infirmière lui avait injecté la première dose d'une piqûre létale. Il n'y avait pas d'engagement plus sincère, plus vital que le leur. Mais Jean était un solitaire, et cette existence ne le comblait pas. Il désirait partager sa solitude avec Titania, de manière exclusive. Il avait aussi besoin de moments de recueillement et de silence, et il s'échappait de plus en plus souvent, mu par un besoin profond de prendre des bouffées de solitude sans lesquelles il s'asphyxiait. C'était ce qu'il était allé faire aujourd'hui, laissant Titania dormir après une nuit d'insomnie, et Mito plongé dans le montage d'une vidéo. Il était retourné au marché aux puces et avait acheté la bague ancienne en forme de serpent spiralé. Il en avait profité aussi pour demander des renseignements au marchand de souvenirs 3D. Il aurait aimé par-dessus tout retrouver ceux de Titania et les lui rendre. Ce cadeau, irremplaçable, aurait été la plus belle preuve de son amour. Titania, délestée de ses souvenirs, paraissait de plus en plus légère et volatile. Son identité se perdait dans son mouvement. Il semblait à Jean qu'il fallait trouver quelque chose pour l'amarrer à son propre passé. Le marchand ne lui avait pas appris grand-chose, à part que des collectionneurs passionnés dépensaient des fortunes pour ce genre de produits. Jean l'avait remercié, puis, dans le métro, il avait composé son poème sur son RV. « Te verrai-je apaisée avant que d'être morte, reine exaltée, malgré l'amour que je te porte, il me vient le désir d'une île, d'une escale, et le regret poignant de nos amours banales. » Pouvait-il le lui lire ? Il laissa la question en suspens et prit la direction de l'appartement à vendre, dont un courtisan leur laissait la jouissance depuis près d'une semaine. Il serait plus prudent de changer de base. Jean soupira, à l'idée de reprendre la route. Quand il rentra, Titania dormait encore et Mito n'avait pas décollé de son écran. « Regarde, j'ai fini le montage des deux vidéos. » Jean s'approcha. Il respectait tacitement une entente parfaitement cordiale, mais il ne parvenait à communiquer que lorsque Titania était là, ou, comme à présent, lorsqu'il y avait une bonne raison de le faire. La première vidéo ne durait pas longtemps. Elle avait été conçue pour être montée en parallèle avec celle de Régenville, prise par la caméra de surveillance, destinée à établir de manière confondante l'origine de cette dernière. On y voyait Mito filmé par un drone qui se faisait admettre dans le couloir du club après quelques mots au videur. « Comment as-tu réussi à entrer avec ton drone ?» Mito mit la vidéo sur pause. « J'ai dit que je faisais un reportage sur les lieux du crime à Paris et que ça lui rapporterait de nombreux clients déjantés. Et il t'a cru ?» Locard m'a donné un programme à installer sur mon RV, une espèce de carte de presse informatique. Je ne savais pas qu'il nous avait proposé ça. Tu en as une aussi, tu n'as qu'à la demander à Titania. C'est elle que Locard a contactée il y a 3 ou 4 jours. Tu devais être en train de dormir. Jean hocha la tête et Mito redémarra la lecture. Le drone vint se placer exactement au niveau de la caméra de surveillance et Mito fit à dessein les mêmes gestes que Régenville sur la vidéo. L'angle, l'éclairage, les tentures rouges, les écrans qui passaient des clips, tout était identique. « Ça fait longtemps que ce crime a eu lieu ?» demandait Mito au videur qui avait refermé la porte et quitté son poste pour le rejoindre dans le couloir. L'homme, qui faisait plus de 2 mètres de haut, content d'être valorisé pour autre chose que pour ses muscles, au demeurant fort impressionnant, s'était montré causant. « Environ 2 ans, vous avez dû en entendre parler, le réseau n'a causé que de ça pendant des jours, l'affaire du juge mal finie. » Ah, fit Mito, je me souviens, c'est vous qui étiez de service ce soir-là ?
Non, un collègue.
Que s'est-il passé ?
Une orgie qui a mal tourné, des pratiques extrêmes, on a retrouvé tout le monde mort.
Ils se sont entretués ? On pense plutôt que c'est l'un d'entre eux qui aurait pété les plombs et qui aurait descendu tous les autres.
Avant de se donner la mort,
c'est ça. Avec une arme à feu ?
Oui.
Ça arrive souvent que les gens viennent aux orgies avec des armes ? Vous savez, le club est privé, on ne sait pas trop ce qui se passe quand les portes sont fermées. Et puis les clients ne sont pas tous des enfants de cœur. Dites, je vais passer sur le réseau ?
Ça se pourrait, l'ami.
Je peux voir l'intérieur de la salle ?
Le videur avait acquiescé. Il n'y a personne, alors pourquoi pas ?
Et c'est ainsi que Mito avait pu filmer le lieu du crime. Tandis que les images défilaient, on entendait la voix de Mito qui commentait, un peu théâtrale. « J'aimerais vous dire que le crime a laissé ici une empreinte, qu'un parfum de carnage, une trace sinistre demeure. Mais le trou dans l'eau s'est refermé. La salle du Rouge Lutèce est un lieu aussi ordinaire que possible. Les tables basses, les canapés pourpres douteux,
Les tapis aux motifs démodés confirmaient cette sentence. Mito s'arrangea pour déposer une petite mue de serpent sur une table transparente, et la vidéo s'arrêtait sur cette image. « Il t'a laissé déposer ça ?»« Je l'ai reprise après, elle pourra nous resservir. Qu'est-ce que tu penses du montage ?» Jean savait que son avis ne lui importait guère. Mito ne parlait technique qu'avec Titania, mais il s'efforça de faire comme si de rien n'était. « C'est bien, propre et efficace. Et la deuxième ?»« La deuxième est plus longue. C'est Titania avec la veuve. » « L'opération d'hier ?» demanda Jean avec étonnement. « Tu as déjà fini le montage ?»« Oui, je n'ai pas beaucoup dormi. » Jean prit un siège et s'installa sans rien dire. « Le début est un peu longuet, prévint Mito, mais je n'ai pas voulu le couper. » Titania filmait, une fois de plus, avec ses lentilles caméra. Elle déambulait dans le jardin du Luxembourg, qui respirait comme à chaque fois l'ordre et le luxe. L'entrée du jardin était payante depuis plus d'un siècle, et aucun HR ne venait en troubler le calme paysage. Elle était entrée par le haut du boulevard Saint-Michel et arrivait à proximité du palais. À la vue du bâtiment classique, auquel un toit réfléchissant donnait seul une allure de modernité, Jean se souvint des paroles de sa mère. « Il y avait là l'une des institutions majeures de l'État, Jean, qui s'appelait le Sénat, une docte assemblée de vieillards austères qui méditaient sur la loi. Et à quoi cela a-t-il fait place ? À ce palais des caprices où nos enfants sont étourdis de jouissance et de consommation. » Au fur et à mesure que Titania s'approchait, on pouvait voir des fumées multicolores, des bulles de savon, des balles flottantes s'envoler des fenêtres et des portes. Des cris de surprise et de joie, des rires perlés, s'échappaient également du bâtiment monumental. À l'entrée du palais, des parents pressés laissaient leur progéniture avec des recommandations bien singulières. « Mange tout ce que tu peux. Ne reste pas trop longtemps sur chaque jeu. Essaie de rentabiliser l'entrée. » Les enfants, hypnotisés par les mystères chantants, sucrés et colorés qui les attendaient à l'intérieur de l'auguste bâtiment où s'étaient jadis murmurées les lois, partaient alors sans dire au revoir, aussitôt le RV de leurs parents délesté de quelques centaines de crédits. Les yeux de Titania changèrent de direction et s'attardèrent sur une pelouse où quelques adultes s'essayaient à la lévitation. Des installations électromagnétiques recouvertes d'un gazon anglais permettaient en effet à certains endroits, moyennant finances, de s'élever à quelques mètres. Des femmes en tenue de sport prenaient, dans les airs, des postures de yogi, sous l'œil admiratif des passants. De jeunes gens jouaient à s'élever puis à sauter hors du champ électromagnétique. « C'est drôle, » murmura Jean. « Parfois, on ne reconnaît pas Titania lorsqu'on la voit, mais on la reconnaît toujours lorsqu'on observe le monde à travers ses yeux. » « C'est vrai, » acquiesça Mito. « Mais je ne saurais pas définir en quoi son regard est si particulier. C'est comme... On dirait qu'elle est ambiguë, à la fois fascinée et critique, sensible à la beauté de ce qu'elle voit, mais consciente du mal qui se cache derrière. » Mito considéra Jean, saisi par la vérité de ce qu'il disait et qu'il n'aurait pas su exprimer lui-même. « Elle est la grande spécialiste des féeries mortifères, » continua Jean. Mito ne répondit pas. La femme que Titania avait rejointe portait une chevelure d'un noir corbeau qui lui tombait jusqu'aux chevilles. Elle avait un aspect étrange, un peu self-art. Elle évoquait à la fois une danseuse de flamenco, une veuve sicilienne et une princesse arabe. Intéressant mélange. Elle n'était pas très belle, mais racée, d'une imperfection calculée et infiniment expressive. « Vous devez être Titania, » dit-elle. « Oui, je vous remercie à nouveau de m'accorder cette entrevue. » Sera-t-elle filmée ? Elle est déjà filmée, mais si vous le voulez bien, je souhaite installer un drone afin d'améliorer la qualité de l'image. « Faites !» dit-elle simplement. À partir de cette minute, le montage de Mito devenait plus complexe, puisqu'il alternait entre les plans subjectifs des lentilles caméra et le plan d'ensemble saisi par le drone. Jean, comme à chaque fois qu'il voyait Titania apparaître, en vrai ou sur un écran, eut un petit choc. Elle était aussi blanche et vaporeuse que l'autre était brune et volcanique. Sa beauté de poupée, si délicate et si parfaite, paraissait cependant moins intense que le visage magnétique de son interlocutrice. « Vous êtes le liberton Laura Malfini ?» demanda Titania. « Oui, je suis la veuve du juge, et c'est moi qui vous remercie de me donner la parole après tout ce que l'on a raconté sur le réseau. Êtes-vous en colère contre les médias ?» « Oui, ils ont couvert la mort de mon mari avec un sensationnalisme de bas étage. Pour quelles raisons, d'après vous ? Pour les mêmes qui ont poussé la police à conclure, absurdement, à une affaire de mœurs. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Laura Malfini lança sur Titania un regard de braise. « J'accuse la société Hillness d'avoir fait pression, de je ne sais quelle manière, sur la police et sur les médias, afin que l'affaire que suivait mon mari soit étouffée, son enquête arrêtée et son nom discrédité. » « Il s'agit là de très lourdes accusations, Laura. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez là ?»« Malheureusement non, mais une intime conviction, la certitude que mon mari a été piégé. Il a beaucoup hésité avant de se lancer dans l'instruction de cette affaire. » Il connaissait les risques et m'en avait parlé à plusieurs reprises. À votre avis, qu'est-ce qui l'a poussé à s'en occuper malgré tout? Je pense qu'il estimait de son devoir d'éviter que cette pratique se renouvelle à l'avenir. De quelle pratique parlez-vous? De celle qui consiste à créer un virus pour pouvoir vendre le vaccin. Vous accusez la société Hillness d'avoir créé un virus? Oui. Lequel? Le V14. Celui que seule la société Hillness parvenait à guérir avec son antiviral miracle, le Panacor. Sur quoi fondez-vous cette accusation? Sur de nombreuses conversations avec mon mari. Contrairement à son habitude, il souhaitait partager avec moi les informations relatives à ce dossier. Pourquoi? Peut-être parce qu'il se sentait menacé. Avez-vous essayé de communiquer, après sa mort, sur cette intime conviction? J'ai tapé à toutes les portes, mais personne n'a voulu diffuser ma voix. Vous êtes la première à m'offrir cette possibilité. Connaissez-vous notre collectif, Debout dans le temps? Non, j'avoue que je n'en ai jamais entendu parler. Nous essayons de faire la lumière sur un certain nombre d'affaires, parmi lesquelles le meurtre de votre mari. Saviez-vous que d'autres gens sont morts en enquêtant sur le Panacor? Non, je l'ignorais. Nous avons des preuves, Laura, des preuves qui incriminent indirectement Hillness pour la mort de votre époux. Laura Malfini risqua un sourire qui exprimait à la fois la surprise, le soulagement, la douleur et la colère. C'était une femme que son mari avait dû beaucoup aimer. Qu'allez-vous faire de ces preuves? Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, nous allons les rendre publiques. Nous allons porter des accusations. Nous allons organiser un procès. Laura Malfini semblait avoir vibré à ces mots, mais elle soupira, déçue. Vous êtes jeune, vous croyez que tout est possible. Mais vous n'y arriverez jamais. Oh, mais je ne parlais pas d'un tribunal régulier comme celui pour lequel travaillait votre mari. Je parlais d'un tribunal populaire et médiatique, le genre qu'on ne peut pas empêcher de se tenir. La braise se ralluma dans les yeux charbonneux de Laura. Alors la vérité sera dite, au moins une fois. Toute la vérité, rien que la vérité, prononça Titania sentencieusement. Je le jure. La vidéo s'achevait sur le regard scintillant de la veuve Malfini. Le teaser à la fin est vraiment réussi, commenta Mito. Tous les courtisans vont attendre le procès maintenant. Oui, c'est très fort. Un doux parfum familier leur fit tourner la tête à tous les deux. Titania, toute chaude encore de sommeil, les cheveux ébouriffés, sortait de la chambre. Mais j'y pense, dit-elle en jetant un œil à la vidéo. On a complètement oublié la mue de serpent cette fois. Je sais, dit Mito. Mais cette vidéo est un peu particulière parce que tu n'es pas déguisée. Titania paraissait ennuyée et regarda Jean. « Ça n'a pas d'importance, le rassura-t-il. Et puis, à propos de serpent... » Il sortit de sa poche une boule cadeau. Ces petits emballages avaient vu le jour depuis peu. Leur plastique, avec lequel on pouvait imprimer n'importe quelle forme, était ultra sensible à la chaleur et fondait à 37 degrés. Titania s'en saisit, la fit rouler entre ses mains, et comme par magie la boule se déplia et s'affaissa pour laisser voir dans ses replis la petite bague d'argent. Titania semblait ravie. Elle était touchée par l'attention plus encore que par l'objet. « Quand es-tu allée la chercher ?»« Ce matin. »« Merci. » Amoureuse et reconnaissante, elle enfila la bague et se pendit à son cou. Jean la serra dans ses bras et enfouit le visage dans ses cheveux, dans son parfum, s'oubliant dans cette merveilleuse douceur. Toujours assis à côté de l'écran, Mito les regarda un instant puis détourna les yeux. Comment une chose qu'il savait déjà pouvait-elle à chaque fois le blesser à ce point? Sur le doigt fin de Titania, à l'ongle finement nacré, le petit serpent d'argent s'enroulait sur trois tours, dans une étreinte étroite qui paraissait ne jamais devoir finir.